4. À la source. Modérément sage devrait être chacun, jamais trop sage. Celui qui ne sait pas d'avance son destin a le cœur le plus libre de soin. Avamal, traduction Régis Boyer. En Guzel de Quimarc siégeait à l'avant de son chalit, entre les deux colonnes de bois sculpté. Le couvre-lit damassé et les courtines armoriées aux chevaux courants de Quimarc transformait ce meuble luxueux en lit de justice. Magnifiquement vêtu, seul laïc à porter le chapeau dans tout l'étage noble, le comte avait retrouvé sa superbe. Il avait écouté presque sans mot dire le frère Winmer que l'archichapelain Rubestre et le sénéchal de Varesquet venaient de presser de questions. Quoiqu'il comparût devant un haut seigneur, le frère sergent avait été autorisé à s'asseoir, eu égard aux épreuves qu'il avait traversées. Destiné à ménager ses forces, cette faveur le gratifiait en réalité d'une commodité assez inconfortable. Bien qu'elle fût garnie d'un coussin, son escabelle était basse et forçait le visiteur à regarder le suzerain par-dessous. Autour de lui, à part quelques seigneurs assis dans des faux-desteuils, le cercle des chevaliers et des écuyers restait debout. Le frère Winmer, quoiqu'il ne fût interrogé qu'à titre de témoin, se trouvait donc dans une position proche de celle de l'accusé sur la sellette. « Hormis la bataille d'Aberbéchan, s'enquérait le sénéchal. Le seigneur Claudas vous a-t-il parlé d'autre chose? Lorsque Ferbassac l'invitait à sa table, de quoi s'entretenait-il? Le roi Hartclyde a-t-il mentionné la guerre contre les Hoer? » Au dire de Claudas, le barbare prenait surtout plaisir à l'humilier, répondit le frère sergent avec lassitude. Je sais peu de choses de cette guerre contre les Hoer. Mais votre fils, seigneur comte, ne me confiait pas tout. J'ai l'impression qu'il gardait par-deux vers lui un certain nombre de choses. Au moment de votre libération, le seigneur Claudas vous aurait-il chargé d'un message pour son père ? Demanda l'archichapelain Rubestre. Ou peut-être a-t-il simplement fait un signe ? Le soldat consacré hocha négativement du chef. Lorsque les hommes de Gruffudd m'ont tiré du cachot, ils ne m'en ont pas donné la raison. Claudas m'a juste recommandé au resplendissant et j'ai fait mes prières en m'attendant au pire. J'ai été le premier surpris de me trouver racheté. Or la surprise, avez-vous éprouvé d'autres sentiments ? Reprit le sénéchal d'un air un peu pincé. Quelque chose comme, que sais-je, de la gratitude pour mon seigneur Anguzel ? Je ne vois pas en quoi mes sentiments vous éclaireront sur la situation, répondit froidement le frère sergent. Les Hurons ont failli me tuer juste avant de me libérer. J'ai surtout éprouvé de la peur, puis de l'incrédulité. Vous voulez sans doute savoir si je suis reconnaissant à Monseigneur de Quimarc pour sa largesse. Sachez que j'estime être son obligé, comme je suis l'obligé du chevalier de Vaumacel, qui a répondu de ma qualité, et celui du chevalier de Froec, qui a accepté de payer. Je leur dois la vie, pour le peu qu'elle vaut encore à mon âge. » Toute l'assistance fut frappée par l'intonation morne avec laquelle ces mots furent proférés. « Ne rendez-vous pas grâce au resplendissant pour la protection qu'il vous a octroyée ? » demanda l'archichapelain. « Je lui rends grâce, mais j'ai beau prier, son dessein m'échappe. N'aurait-il pas été préférable qu'il sauve Claudas ?» « Voici un discours imprudent, mon frère. Vos doutes voisinent avec l'impiété. Je ne juge pas la volonté divine. Qui suis-je pour le faire? Je ne la comprends même pas. Je me contente de m'y soumettre. Sans doute est-ce une raison suffisante pour le secours que vous avez reçu ?» commenta le prélat. Le sénéchal s'apprêtait à reprendre la parole, mais le comte l'en empêcha d'un geste. Il considéra un moment le soldat de l'ordre sans proférer un mot. Le frère Winmer attendit, avec plus d'indifférence que de patience, les yeux baissés par lassitude. Moi non plus, je ne cerne point les intentions du resplendissant, finit par dire le suzerain. Mais pour gouverner, il faut savoir sonder le cœur des hommes. Et ce que je vois dans le vôtre, frère sergent, c'est que vous avez l'air aussi fâché que moi d'avoir pris la place de mon fils. Cela vous rachète à mes yeux du peu d'entrain avec lequel vous me remerciez. Mais cela me trouble aussi. De quoi avez-vous peur? D'avoir failli? Qu'entendez-vous par là? Cette faute a-t-elle un rapport avec mon fils? Non, seigneur comte. Est-ce de moi que vous avez peur? Auriez-vous omis des informations que vous tremblez de me délivrer?
Je ne vous crains pas, seigneur comte, répondit le frère sergent avec une apathie presque désobligeante. Quelques murmures parcoururent les rangs des seigneurs et des chevaliers.
Dans ce cas, pourquoi ai-je le sentiment que vous me dissimulez quelque chose? S'irrita Anguzel.
Peut-être parce que je ne vous dis point tout ce que vous souhaitez entendre.
Vous m'avez dit que mon fils est vivant et en bonne santé. Je pouvais craindre d'apprendre bien pis.
Vous attendiez sans doute que je vous donne une clé ou une solution. Le resplendissant me pardonne, je n'ai rien de tout cela.
Je n'ai pas cette naïveté, frère sergent. Je ne l'ai jamais eue. Le salut vient peut-être des humbles en religion. Il vient toujours des grands dans les heures du siècle. Mais vous avez raison sur un point. Vous ne me dites pas tout ce que je souhaiterais entendre. Aussi, ne serait-ce que pour me remercier de vous avoir rendu la liberté, je vous serais obligé de répondre à cette question. Pourquoi vous?
Pourquoi moi?
Pourquoi vous au lieu de mon fils?
Je n'en sais rien.
Les yeux du comte se plissèrent, remplis de suspicion. Comment? Pas la moindre idée? S'étonna-t-il. Vous n'auriez tout de même pas le front de me mentir?
Pour la première fois, le frère Winmer marqua une brève hésitation.
Je ne souhaite nullement vous offenser, monseigneur, s'excusa-t-il.
Je le souhaite d'autant moins que votre fils m'a traité en bon compagnon lors de notre captivité. En fait, les raisons pour lesquelles le roi Hartclyde m'a substitué à Claudas n'ont que peu à voir avec vous. Ferbassac est un être profondément mauvais. À certains égards, il est beaucoup moins grossier que les hommes qu'il commande. Mais ce que l'on pourrait prendre pour de la sagesse ou de la libéralité n'est que de la perfidie. Ce que je puis vous dire, seigneur comte, c'est qu'il ne m'a point gracié par clémence, mais par malveillance. Cependant, le mal qu'il a ourdi est sans lien avec la maison de Kimark.
Eh bien, dans ce cas, pourquoi renâcler à en parler? En faisant de nous des hommes avertis, vous nous aiderez contre l'ennemi.
Le frère sergent secoua la tête avec réticence.
« Je me suis mal expliqué, » dit-il avec un air de répulsion. « Ferbassac m'a renvoyé vers vous avec l'intention de propager un malheur. Loin d'étancher votre soif de vérité, boire mes paroles ne ferait que vous empoisonner. »
L'argument est plutôt fallacieux, jugea le sénéchal. Nous pourrons difficilement l'accepter.
Vos dérobades discréditent tout votre propos, gronda le comte. Comment croire ce que vous avez rapporté sur mon fils, si vous dissimulez?
Le resplendissant m'est témoin, marmonna le frère sergent. Je vous dis la vérité.
Peut-être êtes-vous de bonne foi, admit le suzerain. Mais votre attitude ne plaide point en votre faveur. Qui êtes-vous?
Un inconnu.
Sans l'intercession du chevalier de vos macelles, vous ne seriez point parmi nous. Où est votre manteau de l'ordre? Qui servez-vous? Que faisiez-vous avec Innsberg, alors que de votre propre aveu, vous ne marchiez point dans l'armée ducale? Or, voici que vous refusez de répondre à mes sollicitations et que vous prétendez juger mieux que moi ce qui est bon à dire et bon à sceller dans ma propre cour. Je commettrais une faute si je ne cherchais point à tirer cela au clair. Répondez-moi, frère sergent, ou qui que vous soyez, sans quoi je serais contraint de recourir à d'autres moyens.
le frère Winmer lui opposa une mine fermée.
L'ordre n'est pas soumis à la justice séculière, répliqua-t-il.
En effet, repartit le comte. Mais quelle assurance ai-je que vous lui appartenez? La parole de Sir Edan? Mais n'avez-vous point abusé sa confiance? Ne venez-vous pas d'avouer à moitié que vous étiez une créature du roi barbare? Parlez tant que vous vous adressez encore à un protecteur, sans quoi vous aurez affaire au seigneur justicier.
Le soldat consacré baissa la tête, sourcils froncés comme s'il pesait une décision difficile. Les murmures s'élevèrent à nouveau dans l'assistance.
« Je vous en conjure, Winmer. Donnez satisfaction à monseigneur, »
pressa le chevalier de Vaumacel.
« Je ne doute pas de votre droiture. Ne doutez point de celle du comte. Parlez à cœur ouvert, et je suis sûr que monseigneur Anguzel vous pardonnera vos réserves. »
Le frère sergent lui adressa un regard désabusé.
« Vraiment ?»
demanda-t-il sans voiler son scepticisme. Puis, cherchant des yeux quelqu'un d'autre dans l'assemblée, il finit par arrêter son attention sur le chevalier au pis qui avait repris sa place à la fenêtre. De façon cavalière, Winmer le désigna du doigt.
« Je vous ai pourtant dit que ce personnage était un traître et personne n'en a tenu compte. À quoi bon parler à des gens qui ne veulent pas entendre ?»
La plupart des visages se tournèrent vers l'aventureux qui se désintéressa un instant du paysage pour accorder une attention distraite à l'assemblée. Si, au cours de la nuit, le chevalier de Froek avait fait état de l'hostilité du frère Winmer à l'encontre de leur compagnon, il n'en avait instruit que le comte et ses dignitaires. Chez les nobles de moindre rang, la déclaration fit sensation. La défiance se peignit sur bien des figures.
« Voilà une grave accusation, » observa Anguzel. « J'espère que vous ne proférez point ces paroles à la légère. On pourrait vous en demander raison. Sur la couronne Eliac, j'en fais le serment. Je vous dis la vérité. Je vous trouve bien ardent à dénoncer autrui pour vous tirer d'affaire. On voit que vous n'êtes guère familier des cours. La manœuvre est des plus grossières. Cet elfe n'est pas plus familier que moi de votre cour. Mais il a de meilleures manières, et il m'a rendu des services. Il en a fait autant pour faire Bassac. Vraiment? Et quoi donc, je vous prie? »
Le frère sergent parut sur le point de parler, mais se réfréna au dernier moment, l'expression tourmentée.
« Eh bien, » insista le comte, « nous laisserez-vous au milieu du guet ?»«
Je ne peux le dévoiler en public, » grommela Winmer. Cela ne donnerait que plus de force au mal.
Il suffit. Vous me faites perdre mon temps et vous insultez un de mes hôtes. Vous resterez à Neuwied-In jusqu'à ce que j'aie confirmation que vous appartenez à l'ordre ou jusqu'à ce que vous parliez sans dissimuler.
Je pardonne à l'importun, intervint gracieusement le chevalier au pis. Il s'est fondé sur de mauvaises prémices et me juge de travers, mais il serait indigne de quereller quelqu'un qui a tant souffert. Ces paroles conciliantes, loin d'apaiser le frère sergent, parurent le cingler. Il bondit sur pied et, oubliant le comte, prit à partie l'aventureux.
« Et à cause de qui ai-je souffert, sinon à cause de vous ? »
s'écria-t-il. L'aventureux eut l'air tout à fait déconcerté.
« Moi ? Enfin, vous m'êtes un parfait étranger. Quel procès me faites-vous ? Je vois bien que vous ne me connaissez pas. » au point de n'avoir aucune conscience du préjudice que vous m'avez causé. Et l'ermite de ce Nantes, vous est-il aussi inconnu?
L'ermite de ce Nantes? Ah, c'est différent. A-t-il un lien avec vous?
Comment croyez-vous que j'ai échoué entre les griffes du roi Hartclyde?
L'ermite de ce Nantes?
Renchérit le sire de Vaumacel.
Mais que vient-il faire dans ce différent?
De la paume, Anguzel heurta bruyamment son bois de lit.
« Du calme !»
intima-t-il.
« Soyez plus clair. Quel est cet ermite dont vous parlez? Qu'a-t-il à voir avec nos soucis ?»«
Le frère Hummel est un augure de la vieille déesse qui s'est retirée dans les bois
aux confins des seigneuries d'Ouchin et du Trèfle, expliqua Edan. Il est fantasque, mais de bons conseils. Il m'a aidé à trouver...
Le sire de Vaumacel s'interrompit, comme si une idée venait de le frapper. Se tournant vers le chevalier Opi, il ajouta d'un air troublé.
Il m'a aidé à vous trouver, sire Ameline.
Le frère sergent lui adressa un signe d'assentiment où perçait une sombre satisfaction. Le chevalier Opi afficha brièvement une mine contrariée dont il se départit d'un haussement d'épaules.
Bien sûr, je comprends mieux votre emportement si l'ermite est votre ami, convint-il. Notre visite a eu des suites imprévues, dont je suis plutôt mari. Mais cette regrettable déconvenue n'était point intentionnelle.
Une regrettable déconvenue, s'étrangla le frère Vinmer. C'est ainsi que vous voyez les choses.
La discussion aurait pu se dénouer de façon plus fraternelle, répondit l'aventureux sur un ton un peu pincé.
Le vieux sergent parut un instant interloqué, puis la colère lui monta au front, et un instant, on put croire qu'il allait se précipiter sur le chevalier Opi.
« C'est plus que je n'en puis supporter !»
s'écria-t-il le timbre vibrant de rage. Et se retournant vers le comte, il ajouta sur le même ton
« Eh bien, soit, monseigneur, je vais satisfaire vos attentes. Je vais vous raconter comment je me suis retrouvé captif avec Innsberg et ceux dont j'ai été témoin. Cela n'a rien à voir avec votre fils et ne concerne que de loin le cours de la guerre. Mais à ma grande honte, je n'ai pu empêcher une tragique infortune dont j'aurais préféré vous épargner le récit et dont ce personnage,
il pointa un index accusateur sur le chevalier Opi,
a été l'un des protagonistes.
Avant de transcrire l'histoire de Vinmer, peut-être serait-il indiqué d'apporter quelques précisions sur la façon dont elle nous a été transmise. Il convient d'abord de confirmer que, tant qu'il avait refusé de narrer sa triste expérience, le frère sergent avait invoqué d'authentiques justifications. Comme il l'avait allégué, l'épreuve qu'il avait traversée n'avait qu'un lien ténu avec les opérations militaires et la captivité de Clodas de Kimark. Dans un certain sens, on aurait pu considérer que ces déboires n'avaient été que l'un des 1000 drames qui peuvent accabler les pauvres gens piégés dans un pays en guerre. Et pourtant, le récit de Vinmer rencontra un écho considérable, bien au-delà de Neuvidine et de la cour du comte Anguzel. Le frère sergent n'était point dépourvu de sagesse, et s'il avait montré de la réticence à parler, c'était parce qu'il mesurait combien la nouvelle dont il était porteur choquerait les esprits. De nombreux documents se sont fait l'écho du récit de Vinmer, dans des genres et des langues différents, avec d'inévitables variantes et même des contradictions flagrantes. Des factions opposées se rejetèrent la faute du triste événement dont le sergent de l'ordre avait été témoin, ce qui contribua à la prolifération des versions divergentes. D'aucuns mirent même en doute l'authenticité de ce témoignage. J'ai pris sur moi de quitter mes appartements afin de mener quelques recherches dans la librairie. Hélas, la perte de l'index a rendu mes efforts en partie vains. Mais j'ai quand même mis la main sur un ouvrage qui mentionne cette histoire, de façon fantaisiste et très partiale. Le chansonnier du chevalier de Renoiry. Le récit que fit Vinmer à Neuvidine affligea tant une partie de la noblesse qu'il se diffusa très vite hors du comté. Sans doute un résumé en figurait-il dans le courrier que la chancellerie de Kimark adressa au grand maître de la principauté du Sacre quand le comte Anguzel voulut vérifier l'appartenance du frère sergent à l'ordre. En tout cas, les très sérieuses annales de la principauté du Sacre mentionnent ce drame juste avant l'évocation de la défaite d'Aberbechan. Le clergé cycloteïste en a également été instruit, sans délai, bien au-delà du comté, probablement grâce à la correspondance de l'archichapelain Rubestre. Les ministres de la vieille déesse furent d'ailleurs assez embarrassés par cette affaire, car elle auréolait de la gloire du martyr un de leurs frères que la hiérarchie ecclésiastique considérait comme un clerc plus mondain qu'orthodoxe. C'est néanmoins un prêtre de ce culte, le myste vindicien, qui rapporta dans le Livre des calamités de ce temps, parmi d'autres chroniques des misères de la guerre des deux duchesses, la version la plus détaillée et globalement la plus crédible de la confession de Winmer. La nouvelle se répandit donc dans les états voisins. Elle atterra les grandes maisons de Bromel, de quelques coteries qu'elles fussent. Par divers canaux, elle finit également par arriver dans la Marche Franche et dans la République de Tchoudalia. Les élites patriciennes en furent averties aussi bien par la voie du commerce que par celle de la diplomatie. Une lettre du patrice Cesarino Rasicari, qui avait eu vent de ce malheur alors qu'il venait de trouver refuge à Longomore, aurait été lue dans plusieurs demeures de Torrecella et se trouverait toujours archivée aux entresols du palais curial. En tout cas, la nouvelle atteignit le phénix des lettres tchoudaliennes, le grand Luca Traditore, et lui inspira, probablement sur commande, l'une de ses plus célèbres chansons, La couronne d'Oléandre. D'autres complaintes circulèrent sur le même sujet, composées dans le dialecte bromalois du Léonien. L'une d'entre elles rencontra autant de succès que La couronne d'Oléandre, encore que son lyrisme y fût teinté d'un soupçon de parodie. C'est la fameuse déploration « La fontaine s'est tarie ». Sous ses faux airs de virelai, cette pièce comporte une harmonie si singulière que je soupçonne Annoëtte le Ménestrel d'y avoir mis la main. Ces deux compositions, en tout cas, ont été intégrées par le chevalier Rivalon de Renoirie dans son remarquable chansonnier. Rivalon y a ajouté non seulement une vie de Luca Traditore, mais aussi une brève notice biographique du personnage qui a inspiré la couronne d'Oléandre. Compilateur savant de textes et de musique, le chevalier de Renoirie restait toutefois un mémorialiste fantasque, et il convient de traiter son propos avec une certaine prudence. Je lui ai néanmoins emprunté quelques informations, lorsqu'elles me paraissaient cohérentes avec les aperçus, certes nébuleux, que j'ai pu avoir des annales de la principauté du Sacre et du Livre des calamités de ce temps. Avant de reprendre le fil de mon récit, peut-être sied-il aussi de justifier cette glose. Après tout, je suis loin d'avoir toujours cité mes sources. Certaines sont orales, d'autres magiques. L'une d'entre elles est composée au moment même où j'écris ces lignes par un voisin peu recommandable. Il m'est cependant apparu nécessaire d'apporter ces éclaircissements à propos de la confession de Winmer pour deux raisons. Tout d'abord, pour entériner mon propos. Cet ouvrage n'est pas une fiction, mais un livre utile qui ancre le passé dans l'avenir. D'autre part, j'entends aussi écarter des hypothèses infondées. L'insertion de certains épisodes du roman du Bel Églantier dans ce livre pourrait être facteur de confusion chez mon improbable public. Or, je n'ai recopié ces passages qu'à titre d'illustration, et il va sans dire que je n'en revendique point la composition. Le récit de Winmer lèvera toute ambiguïté sur ce sujet, raison pour laquelle j'ai pris soin de rappeler qu'il est solidement documenté. À défaut de vous dévoiler mon identité, qui du reste n'a que peu d'importance, du moins le témoignage du frère sergent vous apprendra qui je ne suis pas. Qui eût pu croire qu'un simple tourier pût vivre des événements de cette nature? Dans son témoignage, le frère Winmer rappela qu'il avait terminé ses 20 ans de service armé dans la principauté du Sacre. Telle était la raison pour laquelle il avait pu rentrer en Bromel, son pays natal, où il exerçait depuis un lustre la charge de tourier au doyenné de Goborchin. Sa mission n'était point de défendre le finage, qui appartenait à la seigneurie du Trèfle, mais juste d'assurer la garde de la chapelle forte du Resplendissant. Dans les faits, le doyen Magnovald, ayant à cœur de protéger ses ouailles, le frère Winmer étendait son assistance aux villageois tout en veillant à ne point empiéter sur la justice seigneuriale. Ce fut son sens du devoir qui l'entraîna dans cette funeste aventure. Tout commença à la fin de l'hiver par la disparition d'un marmot du village, le petit Milouin. Winmer anima en vain les recherches avec le doyen. Il poussa même ses reconnaissances hors du finage dans les hautes terres d'Agurande, jusqu'à l'ermitage du Senante, sans aucun résultat. Un mois plus tard, il donna d'utiles conseils au chevalier de Vaumacel, qui s'était lancé sur les traces de ravisseurs d'enfants et pressentait que Milouin était de leur victime. Le frère sergent avait toutefois perdu espoir de retrouver le petit garçon. Il en éprouvait des remords, et même un peu de peine, car Milouin était un gentil gamin. Mais il pensait que l'affaire était close, jusqu'au jour où un frère girovague du culte du desséché retrouverait de pauvres restes éparpillés par les bêtes sauvages. Le printemps qui suivit la disparition de Milouin commença de façon assez paisible. Certes, le jour même du départ du chevalier de Vaumacel, une grande frayeur secoua le village. En fin d'après-midi, les lisières de la forêt vomirent une horde effrayante au débouché du Val de Loubière. Des centaines de guerriers barbares, vêtus de plaides et de fourrures, lourdement équipés, longeaient la petite rivière vers Goborchin. Mais ils contournèrent le hameau sans y entrer et s'engagèrent à grands pas sur le chemin du trèfle. Au milieu de la horde chevauchaient quelques cavaliers. L'un d'eux portait une bannière aux couleurs ducales marquée de la bande des bâtards. Le soulagement des rustiques fut immense lorsqu'ils virent la cohorte s'éloigner dans la campagne. Peu après, les gens du pays apprirent que le finage de Chanevier avait été mis à sac par cette soldatesque. La rumeur de pillage raviva les alarmes. Mais l'angoisse ne dura guère. Le seigneur Douchin ayant levé ses soudoyers afin de répondre à la convocation du banc de Carwell, les troupes mercenaires s'étaient jointes à l'arrière-banc du trèfle pour rejoindre l'ost ducal et la quiétude revint dans le pays. La Reverdie gagna les bois et les vergers. L'air se fit plus doux. Loubière chantait joyeusement au bas des maisons. Les gens de Goborchin reprirent leurs habitudes. Les paysans taillèrent la vigne, procédèrent à la tonte des moutons, repiquèrent leurs légumes et célébrèrent la fête de Premevert. Les gars partis s'acquitter de la corvée dans la réserve seigneuriale en revinrent avec des nouvelles de la vallée du Vernobre et du comté de Quimarc. Le duc et son armée avaient quitté Carwell pour se rendre à un grand tournoi à Lindinas. De là, il était question de porter la guerre en Ouromagne. On en causa un peu à la veillée, entre les contes, les potins et les vieilles chansons. De l'avis général, c'était une bonne chose que les chevaliers et leurs sergents s'en aillent frotter les oreilles aux Ouromans. On trouvait même assez drôle que le duc ait recruté des barbares pour éreinter d'autres barbares. Quoi qu'il en fût, plus loin partaient les fers vêtus, mieux se portait le pauvre peuple. Les récoltes ayant été bonnes l'année précédente, la période de soudure ne fut pas trop difficile à passer. La belle saison se profilait dans la douceur des matins. Les arbres fruitiers étaient en fleurs, l'herbe poussait drue dans les prés, la mise bas des truies et des brebis donna de jolies portées. On se préparait à faucher les premiers foins, tandis que les blés se paraient de beaux épillets encore verts. L'été s'annonçait prometteur. On déploierait bientôt les bannières du resplendissant aux fêtes de la chapelle forte. Hélas, avec les beaux jours vinrent les mauvaises nouvelles. Des rumeurs de guerre coururent la campagne, sans qu'on sût trop y démêler le vrai du faux. Loin au nord du duché, assailli par on ne savait qui, un grand sanctuaire de la vieille déesse était parti en cendres. Le tournoi de Lindinas avait mal tourné, et l'on disait le duc et le comte à couteau tiré. Au sud, les Ouromans avaient franchi la Claye et s'étaient emparés d'une ville ducale, d'où ils menaçaient d'envahir les états de Bromel. Au dire de quelques écoliers vagabonds qui gagnaient les collèges de Carwell, la duchesse Clarissima et une partie de la cour venaient de s'y enfermer. Ce bruit inquiéta fort les villageois. Carwell étant situé au confluent de l'Andoune et du Vernobre, au nord-ouest de la seigneurie du Trèfle, Goborchin se trouvait peut-être exposé à une invasion venue du sud. Les bons pères et le frère Vinmer tâchèrent de rassurer les manants, en leur rappelant que le versant méridional des hautes terres d'Agurande était solidement gardé par le comté de Quimarc. Toutefois, lorsqu'ils se retrouvaient seuls, les clercs du doyenné montraient moins d'assurance. Ils craignaient que la discorde entre Ganelon de Bromel et Anguzel de Quimarc ne poussât celui-ci à laisser passer les bandes de pillards. Ministres d'un culte guerrier, les prêtres du Resplendissant ne se voyaient pas proscrire l'usage des armes quand la cause était juste. Le frère sergent aida donc le doyen Magnovald et le custode Frontin à fourbir les leurs au cas où un malheur menacerait le finage. Lorsque la menace finit par se préciser, elle ne vint pourtant ni du Chevêchin, où le sanctuaire de Mondoir avait brûlé, ni de la percée ouromande au sud. Mais elle accumula ses nuées sur la haute vallée de l'Andoun, à l'est. Le seigneur de Vert venait d'y entrer en rébellion, contre l'autorité paternelle, à cause d'un attentat contre sa mère, la ci-devant duchesse Odéarde. On prétendait la tentative d'assassinat ourdie par une bande barbare que le duc aurait stipendiée. À la tête de ces gens de guerre, le jeune seigneur Méléagant mettait à feu et à sang les tenures des vassaux restés loyaux à l'autorité ducale. Il descendait la vallée de l'Andoun, sans doute dans le dessein d'inquiéter Carwell. Or, la baronnie du Trèfle se trouvait sur son chemin dramatiquement dégarnie d'hommes d'armes, puisque le seigneur Rhinfroy et ses chevaliers combattaient les Ouromans aux frontières de Bromel. Ce n'était qu'une affaire de jour, avant que la soldatesque ne ravageât les finages du Trèfle. En l'absence de son époux, la dame Émelotte du Trèfle organisa la défense. Ne pouvant accueillir dans son château tous les manants qui dépendaient de la seigneurie, elle ne l'ouvrit qu'aux paysans des villages les plus exposés. Goborchin, par sa situation sur le piémont des hautes terres, se trouvait assez loin de la rivière. La dame fit savoir à ses habitants qu'ils ne seraient pas autorisés à rentrer dans ses murs. En cas de danger, ils devraient se retrancher dans leur chapelle forte. Les maisons de pierre de Goborchin, qui opposaient des façades aveugles aux champs, formaient presque une enceinte. Le doyen Magnovald et le frère sergent, assistés par des manants déterminés comme le maréchal Ferrand Vafres, firent palissader les quelques entrées du bourg et mirent les villageois en défense. Les bons pères décrétèrent également une neuvaine de prières pour raffermir les cœurs et implorer la protection du Resplendissant. Au milieu de ces travaux et de ces dévotions, le frère Vinmer se sentait tracassé par un autre souci. Il s'inquiétait du sort de l'ermite, seul et vulnérable dans les ruines du prieuré de Senantes. Le vieux soldat finit par s'en ouvrir au doyen Magnovald.
« Le frère Hummel est dans la main de la déesse, lui dit le prêtre. Je ne suis pas sûr qu'il soit disposé à quitter sa retraite pour nous rejoindre, ni qu'il soit plus en sécurité dans nos murs que dans son désert.
Vous avez raison, concéda Vinmer. Je crois aussi qu'il refusera de quitter ce Nantes, mais il serait charitable de l'avertir du péril, et peut-être de lui apporter quelques provendes. Si nous sommes assiégés, voire pire, je ne pourrai plus le ravitailler comme je le fais chaque semaine. »
Le père Magnovald en convint, et accorda donc au frère sergent la permission de quitter Goborchin pour rendre visite à l'ermite, mais il l'exhorta à faire diligence et à être de retour en moins d'une journée. Ses sacoches d'arçon remplies de victuailles, le frère Vinmer harnacha son cheval et partit pour les hautes terres d'Agurande. Les feuillages assombrissaient le vallon de Loubière et le coteau en direction de Verchères. Le vétéran gardait l'épée et la masse de cavalerie à portée de main, car cette route mal entretenue, parfois encombrée de morts-bois, se prêtait malheureusement aux embuscades. On pouvait craindre que le départ du bâtard ducal et de ses soudoyers eût donné les coups des franches aux malandrins du molosse Douchin. Aussi le frère sergent restait-il sur ses gardes. Il traversa pourtant sans alarme le hameau abandonné de Verchères, puis obliqua avec soulagement dans le vieux chemin de Senantes, qui n'était plus qu'un layon à peine percé dans les futaies. Le sentier était devenu si étroit et par endroits si peu praticable qu'il était difficile à trouver. En le descendant vers la combe de Senantes, le cavalier se sentit donc plus tranquille. Il était bien moins exposé que sur la route d'Ouchain. Bientôt, il se trouva plus occupé à écarter les ramilles en travers du passage qu'à guetter une embûche. Ce fut cette distraction qui le perdit. Vinmer apercevait les ruines du prieuré à travers la ramée quand il entendit de l'agitation dans un fourré proche. Il crut avoir surpris un sanglier ou un cerf, mais aperçut sur sa droite une silhouette hirsute et cuirassée qui se précipitait vers lui. L'inconnu s'empara du mors de son cheval. Le frère sergent porta la main à l'épée. À ce moment, un choc violent le heurta à l'oreille gauche. Il ne se rendit pas compte qu'il vidait les étriers. Lorsqu'il reprit ses esprits, le frère sergent gisait sur le dos, sur un tapis de feuilles mortes. Deux rudes gaillards penchés sur lui le dépouillaient sans ménagement. Vinmer fut frappé par les pupilles très pâles, couleur d'étang gelé, et par le collier de dents de loup du plus brutal. Le second, tout en le fouillant fébrilement, avait un regard bizarrement mobile et marmonnait sans discontinuer. Les deux détrousseurs étaient caparaçonnés dans des broignes barbares, en partie recouvertes par des tartans portés en bandoulière. Le frère sergent fut incommodé par leur odeur de beurre rance, de suint et de cheveux gras. Il sentit tout de suite qu'on l'avait délesté de son ceinturon d'armes. Mais il tâtonna vers son aumônière, avec laquelle était suspendue sa dague. Au moment où il constatait leur disparition, l'homme au collier de croc lui posa un énorme coutelas sous la gorge. C'était un scramassax à un seul tranchant, presque aussi large qu'un couperet de boucher. Croc de loup lui décocha un sourire sauvage et lui écorcha un peu le cou avec une satisfaction visible. Son compagnon s'empara de la main gauche de Vinmer et entreprit de délacer son brassard tout en continuant à marmotter entre ses dents. Le frère sergent eut la certitude qu'il était perdu. En confiant son salut au resplendissant, il se mit à murmurer la prière du plus grand péril. Sans doute les deux Ouromans l'avaient-ils épargné parce qu'ils ne voulaient pas souiller l'armure qu'ils convoitaient. Une fois qu'ils l'auraient désarmé, sa vie ne tiendrait plus qu'à un fil. Les forbans délassaient son gambison quand un troisième larron les rejoignit. Aussi crasseux que les autres, il paraissait pourtant d'un rang supérieur, à en juger par les bijoux clinquants qui chargeaient ses poignets et ses mains. Vinmer fut surtout frappé par son torque d'argent, dont les tampons étaient grossièrement ciselés à la semblance de tête d'ours. Au cours de ses années de service dans la principauté du Sacre, le frère sergent avait affronté à plusieurs reprises des bandes ouromandes, mais il n'avait vu qu'une fois l'emblème à chef d'ours. C'était le signe distinctif d'un des clans les plus redoutables, les Artclyde. L'homme au torque se pencha sur le butin et ramassa le manteau de Vinmer, ce qui inspira une grimace menaçante à Croc de loup. L'autre n'en eut que faire. Il considérait d'un œil mauvais l'emblème solaire brodé sur l'épaule, et le frère sergent vit s'envoler ses derniers espoirs, car les Ouromans haïssaient l'ordre du Sacre. Mais des cris détournèrent soudain l'attention des trois scélérats. Un rugissement sauvage et des rires grossiers venaient d'éclater dans les ruines du prieuré. L'homme au torque appela d'une voix rogue et quelqu'un lui répondit dans sa langue. Vinmer maîtrisait quelques rudiments de cet idiome, mais cela faisait des années qu'il ne l'avait plus pratiqué. En outre, il connaissait surtout une poignée de mots et d'expressions des dialectes employés par les clans Catuat, Froja et Sorni. Il ne comprit pas ce que les agresseurs aboyaient. Deux autres brutes émergèrent des vestiges du prieuré. L'un des barbares traînait littéralement derrière lui un pauvre hère épouvanté, à la robe déchirée. Avec un serrement au cœur, Vinmer reconnut l'ermite. Ses ravisseurs le jetèrent aux pieds de l'homme au torque. Le frère Hummel se recroquevilla sur lui-même en tremblant. Au moins était-il encore en vie. Mais cela ne consola guère le frère sergent. Les Ouromans n'avaient que mépris pour le clergé cyclothéiste, comme pour le grand âge. Le sort du malheureux anachorète lui parut aussi scellé que le sien. L'homme au torque considérait cette nouvelle prise d'un air mécontent. Il se tourna brièvement vers Vinmer, reporta son attention sur l'ermite, échangea quelques grognements avec les nouveaux venus. Ceux-ci se mirent à gronder avec colère. Croc de Loup se mit aussi à crier, comme s'il les invectivait, et relâchant sa prise sur le cou de Vinmer, il menaça ses complices du coutelas. Avant même que le frère sergent pût saisir l'occasion, son second agresseur le cogna du poing en plein visage, sans animosité particulière, tout en continuant à marmonner tout seul. Sonné, Vinmer laissa échapper l'occasion de se dégager. Les ouromans se querellèrent un moment. Ils ne retenaient même plus l'ermite, mais celui-ci, terrorisé, n'osait ni se relever ni même bouger. Alors se produisit quelque chose d'étrange. L'homme au torque se mit à appeler.
« Hummel ! Hummel !»
Quoiqu'il fût encore étourdi par le coup et qu'il sentît le sang lui couler du nez, Vinmer le considéra d'un air interloqué. Comment ce pillard pouvait-il connaître le nom de l'anachorète ? Le frère Hummel ne réagissait pas et demeurait épouvanté, face contre terre. L'homme au torque se rendit compte que le frère sergent le regardait. Se tournant vers lui, le barbare demanda
« C'est toi, Hummel ?»
Vinmer demeura quoi ? La situation prenait un tour inattendu, quoiqu'elle ne lui offrît guère d'espoir. Que diable ces brutes voulaient-elles au pieux vieillard ?
« Oh, tu m'as entendu ?»
s'impatienta l'homme au torque.
« C'est toi, Hummel ?»
L'ouroman parlait le léonien presque sans accent. Le frère sergent devina qu'il avait servi comme mercenaire dans des armées bromaloises ou qu'il avait l'habitude de mener des raids sur les terres ducales. À n'en pas douter, il était plus qu'un simple coupe-jarret. Dans un état un peu second, secoué par la peur et les coups qu'il venait d'essuyer, Vinmer avait du mal à rassembler ses idées. Mais il lui fallait tenter quelque chose pour gagner un sursis.
« Je sais qui est le frère Hummel. »
se contenta-t-il de répondre. L'homme au torque roula des yeux d'un air exaspéré.
« Putain, c'est pas ce que je t'ai demandé !» cracha-t-il. « C'est toi, oui ou merde !»
Bien qu'il se tînt à quelques pas, la menace qui émanait de ce gredin était presque palpable. Le scélérat n'était pas homme à se laisser jouer. Il allait très vite en revenir au point, sinon pis. Bizarrement, la frayeur qu'éprouvait Vinmer était en train de se dissocier des brutalités qu'il risquait de subir pour se reporter sur l'ermite. Si la violence des ouromans retombait sur le grand vieillard, le moindre coup pourrait lui être fatal. Alors, sans réfléchir, le besoin de protéger l'emportant sur l'instinct de survie, le soldat consacré lança à pleine voix
« c'est moi, Hummel !»
L'homme au torque eut un sourire torve.
« Eh bien voilà » ricana-t-il. « C'était pas si compliqué !»
Et il ajouta quelques mots dans sa langue à destination des deux forbans qui avaient capturé l'ermite. Une onde glacée saisit l'échine de Vinmer, car s'il ne comprit pas ses paroles, il en devina la teneur.
« Non, arrêtez !» s'écria-t-il. « Ce n'est pas moi, c'est lui ! Le frère Hummel, c'est lui !»
D'un grognement, l'homme au torque suspendit le mouvement d'un de ses comparses qui venait de lever sa hache au-dessus du pieux vieillard.
« Faudrait savoir !» gronda-t-il en léonien. « Ce foireux d'Hummel, c'est lui ou toi ?»«
C'est lui, c'est le frère Hummel. Moi, je suis le frère Vinmer, du doyenné de Goborchin !»
articula le vétéran en ayant l'impression de prononcer sa sentence de mort. Le chef de bande se pencha alors sur l'ermite et, l'ayant saisi au collet, le releva brutalement. Il considéra avec un dégoût visible la figure ridée, les yeux voilés et l'air hagard du malheureux.
« C'est toi, Hummel ! »
lui aboya-t-il au visage. Le prêtre hocha craintivement la tête.
« Tu pouvais pas le dire plus tôt ? T'es sourd, l'ancêtre ! Et ici, on est bien à Senantes ! »
Non sans trembler, le vieillard acquiesça à nouveau d'un signe.
« Donc tu es Hummel de Senantes !»
conclut l'homme au torque, ce qui n'eut pas l'air de le réjouir. Il lâcha l'ermite, qui chancela un peu mais resta debout, sans toutefois oser bouger davantage. Les Ouromans eurent un bref échange avec le museau froncé de chien sur le point de mordre. Certains considéraient l'ermite d'un air incrédule ou consterné, d'autres avec des ricanements de dédain. Gros de Loup se retourna avec naturel vers Vinmer et s'apprêtait à l'égorger lorsque l'homme au torque l'apostropha sèchement. Les deux forbans se querellèrent un moment, comme s'ils allaient en découdre. Mais le gaillard au coutelas finit par s'écarter en maugréant.
« Lève-toi, merdeux du clan du Sacre !» gronda le chef de bande.
Le frère Vinmer s'exécuta, avisant son cheval malheureusement hors de portée. Ses agresseurs l'avaient non seulement délesté de ses armes, mais aussi de ses bottes, et la couche de feuilles mortes glissait traîtreusement sous ses pieds. En quelques pas, l'Ouroman fut sur lui et lui saisit la tête des deux mains, ses pouces aux ongles crasseux lui pressant douloureusement les paupières. Le frère sergent eut un sursaut, tenta de repousser le barbare.
« Si tu tiens tes yeux, ne bouge pas !»
intima la brute. Quoiqu'il fût à moitié aveuglé, le soldat consacré arrêta de lutter. Sans ôter ses gros doigts, l'homme au torque appuya un peu moins fort.
« Écoute-moi bien, Hummel, ou Vinmer, foutu menteur. Je vais te donner une chance de sauver ta peau. Tu vas me rendre un service. Tu vas t'occuper du vieux là-bas, celui qui a perdu sa langue. Il faut qu'on bouge, et c'est déjà un poids mort, alors démerde-toi pour qu'il ne nous ralentisse pas. » C'est ta porte de sortie, gros vénard. Sinon, je laisse Ulfsen s'occuper de ton cas. Tu peux pas le voir, mais en ce moment, il enrage. Il n'en peut plus de pas t'avoir coupé le cou.
Les pouces comprimèrent à nouveau les globes oculaires du frère sergent, qui ne put s'empêcher de se débattre.
« Ça, c'est pas une bonne idée !»
gronda l'homme au torque sans le lâcher.
Pour le service que tu vas me rendre, connard du Sacre. T'as pas besoin de tes deux yeux. Mets-toi bien ça dans le crâne. Au premier pet de travers, je t'en crève un. Ou peut-être les deux.
Sur ces mots, il repoussa brusquement Vinmer, qui faillit s'étaler en dérapant sur les feuilles pourries, et lui désigna l'ermite d'un signe de tête. Le chef de bande aboya également un bref laïus dans sa langue. Aussitôt, tous les autres forbans se mirent à récriminer sur un ton furieux. Mais ils ne s'interposèrent pas quand le frère sergent rejoignit le vieillard.
« Vous n'êtes pas blessé ?»
s'enquit-il en trouvant un piètre réconfort à se soucier d'autrui. La sette, déjà négligée et frêle à l'ordinaire, paraissait dans un état lamentable avec sa robe boueuse, ses mèches clairsemées et hirsutes, ses mains écorchées par les chutes. Il peinait à réprimer ses frissons. Pourtant, levant ses pupilles décolorées sur son compagnon d'infortune, il finit par murmurer
« C'est vous qui avez besoin de soins. Vous saignez. »
Ce fut seulement en entendant ces paroles que Vinmer réalisa que le crâne lui lançait et combien lui cuisait l'estafilade ouverte sous le menton.
« Il faudrait nettoyer ses plaies, »
poursuivait le frère Hummel.
« Je pourrais vous appliquer un cataplasme d'absinthe et de millepertuis, mais mes simples et mon mortier sont dans mon logis. »
Le soldat consacré haussa les épaules.
« J'en ai vu d'autres, »
fanfaronna-t-il péniblement.
« L'essentiel, c'est que vous n'ayez rien de cassé. »
De fait, l'ermite ne put soigner les blessures du frère sergent. Tout en maugréant, les Ouromans entraînèrent brutalement leurs captifs vers une destination inconnue. Ulfsen Croc de Loup s'appropria la monture de Vinmer, tandis que l'homme au torque enfourchait également un cheval, un assez méchant roncin qui ressemblait à un mulet. Le reste de la bande se déplaçait à pied et contraignit les prisonniers à faire de même. Lorsqu'ils se mirent en marche, le frère Vinmer put mieux estimer leur nombre. Il n'était qu'une poignée, 5 pillards, peut-être 6, car il soupçonnait qu'un gredin se faufilait en avant-garde. Le vieux soldat reprit un peu d'espoir. S'il parvenait à profiter d'un instant de distraction des ravisseurs pour récupérer son coursier, il aurait de sérieuses chances de s'échapper. Pareille tentative, toutefois, présentait de sérieuses difficultés. Vinmer n'aurait pas droit à l'erreur. Pour avoir affronté plus d'une fois des ouromans dans les collines de Manganac, il les savait impitoyables. S'il échouait à fuir, l'homme au torque tiendrait parole et l'aveuglerait. Par ailleurs, dépouillé du manteau de l'ordre, de l'armure et du gambison, le frère sergent se retrouvait en chemise. Le temps printanier, heureusement, se montrait clément, mais le fond de l'air restait frais au fond des vallons forestiers. Le vol de ses bottes était de loin le plus gênant pour Vinmer. Très vite, ses chausses furent gorgées d'eau et se déchirèrent dans les ronces. Il avait conscience que s'il ne parvenait pas à récupérer son cheval par surprise, il serait incapable de semer à pied des barbares rompus aux longues courses. Le principal obstacle à l'évasion demeurait le frère Hummel. Le vieillard, essayant de recouvrer un semblant de dignité, refusa d'abord toute assistance. Mais ses ravisseurs l'avaient enlevé sans son bourdon. Faute de bâton, la marche lui devint rapidement pénible. D'autant plus pénible que les ouromans avançaient à grandes enjambées et bousculaient leurs prisonniers dès qu'ils ralentissaient. Au bout de 500 pas, essoufflé, rudoyé, l'ermite accepta de s'appuyer sur l'épaule de Vinmer. Ce soutien ne faisait que retarder l'inéluctable. Le frère sergent sentait la faiblesse crispée avec laquelle le vieillard se raccrochait à lui. Il était évident que le pauvre homme brûlerait très vite ses dernières forces. Tout en soutenant son compagnon d'infortune, Vinmer lui glissa dans un murmure.
« Savez-vous pourquoi cette vermine en a après vous ?»«
Non. »
« Avez-vous déjà eu des démêlés avec les ouromans ?»«
Non. »
Pendant quelque temps, les ravisseurs leur firent remonter le sentier mal frayé que le frère sergent venait de suivre en direction des ruines de Senantes. Ils cherchaient manifestement à rejoindre le mauvais chemin entre Verchères et le château d'Ouchain. Vinmer crut alors un peu mieux cerner la situation. L'homme au torque parlait le léonien. Il connaissait le nom de l'ancien prieuré et celui de son ermite. Il présentait donc le profil d'un soudoyer au service du seigneur d'Ouchain. Depuis des années, les soudards de Domnall Fitzganlon essayaient en vain de nettoyer les hautes terres d'Agurande des malandrins du molosse d'Ouchain. À cette fin, ils avaient terrorisé les manants de la seigneurie, dont la plupart avaient fui, soit pour gagner des régions voisines, soit pour grossir la bande du molosse. Le frère sergent jugeait plus que probable que le châtelain, ayant fini par apprendre l'existence d'un ascète retiré à Senantes, avait décidé de le soumettre à un interrogatoire. Puisque Domnall d'Ouchain avait rejoint l'armée ducale, l'initiative avait été sans doute prise par son sénéchal, Brask Rovell. Cela n'augurait rien de bon. L'officier du grand bâtard était renommé pour ses crimes et ses exactions, qui lui valaient le surnom de Corbeau Rouge. S'il s'était mis en tête que l'ermite était de mèche avec les brigands du Molosse, il ne lésinerait pas sur les moyens pour lui extorquer aveux et renseignements. L'inviolabilité du clergé ne serait bonne qu'à faire rire cette âme malfaisante. Vinmer craignait d'être soumis à la même question que le frère Hummel. Sa présence sur le territoire d'Ouchain suffirait sans doute à le rendre suspect. Or, à la grande surprise du frère sergent, les ouromans n'empruntèrent pas le chemin d'Ouchain lorsqu'ils l'atteignirent. Après avoir vérifié que personne n'était en vue, ils le traversèrent rapidement et entraînèrent leurs captifs de l'autre côté dans des sous-bois dépourvus de voies frayées. La marche, dès lors, devint plus difficile. Le frère Hummel, épuisé, ne cherchait plus à sauver la face. Un bras passé sur les épaules du frère sergent, il avançait de plus en plus péniblement. Vinmer, en soutenant sa taille, essayait de lui donner un peu d'élan et devait parfois le porter à moitié quand il montait un coteau ou négociait un passage difficile. Plus lourd que la carcasse chétive du vieillard, les regards hostiles des barbares, exaspérés par cette lenteur, pesaient sur le soldat consacré. Quand l'une des brutes s'approchait pour les frapper, Vinmer s'interposait afin de protéger l'ermite. Les forbans ne retenaient pas leur coup. À une ou deux reprises, les orions laissèrent le sergent sérieusement étourdi. Ce calvaire ne pouvait pas durer. L'ancien ne serait bientôt plus en état d'avancer. À force d'essuyer brimades et brutalités, Vinmer craignait lui-même de rester sur le carreau. Par ailleurs, il ne connaissait que trop le mépris des ouromans pour le grand âge et la faiblesse. Par quelques bouts compris la situation, le sort du malheureux Hummel paraissait scellé. L'ermite en avait également conscience. Quoiqu'il fût hors d'haleine, il finit par chuchoter
« Je suis dans la main de la déesse. Fuyez à la première occasion avant qu'il ne vous tue. »
C'était la voix de la sagesse. Et dans un sens, ce congé aplanissait les scrupules que le frère sergent avait éprouvés dès qu'il avait envisagé l'évasion. Mais la grandeur d'âme de l'ermite ne fit que stimuler le sens du devoir chez le soldat du sacre, qui protesta qu'il n'en ferait rien et qu'il ne fallait pas perdre espoir.
« Vous confondez l'orgueil avec la générosité, » réprimanda le frère Hummel dans un souffle.
Toutefois, Vinmer sentit aussi le soulagement du vieillard, et cela le conforta dans sa décision de ne pas l'abandonner. Quand l'aïeul fut incapable de mettre un pas devant l'autre, les ouromans marquèrent une pause. La petite bande paraissait perdue au fond d'un ravin forestier, encombré de troncs couchés et de rochers où les chevaux avaient presque autant de peine à marcher que les prisonniers. Quant aux ravisseurs, ils avaient faim. Pillant les sacoches d'arçons de Vinmer, ils dévorèrent les précieuses victuailles qui auraient fourni un mois de subsistance à l'ermite. Ce fut tout juste s'ils jetèrent quelques rogatons aux captifs, comme il l'aurait fait à des chiens. Le frère Hummel n'y toucha pas. Dès que la bande s'était arrêtée, il s'était écroulé dans les feuilles mortes, où il peinait à reprendre son souffle. Sa figure vénérable était creusée par l'épuisement et la douleur. Vinmer tenta en vain de lui faire avaler une bouchée. Il réclama aussi à boire. Un des malotrus les éclaboussa en agitant sa gourde, sous les ricanements de la bande. Les pillards ne s'éternisèrent guère. Sitôt qu'ils eurent englouti leur provende, ils s'apprêtèrent au départ. Or, le frère Hummel n'avait pas récupéré et n'était plus en état de poursuivre la course. Vinmer se résolut à le porter, tout en étant conscient qu'il serait incapable de suivre le rythme des barbares. Au même moment, s'éleva une querelle assez vive entre l'homme au torque et Ulfsen Croc de Loup. Les deux brutes parurent à deux doigts de croiser le fer. Puis, avec un crachat de mépris, Croc de Loup finit par en rabattre. Se tournant vers le frère sergent, l'homme au torque déclara alors « Le vieux va monter ton cheval. » Et avec un sourire sarcastique, il ajouta « C'est Don Chad qui va mettre le vieux en selle. Toi, si tu t'approches de Taros, « je te fracasse la gueule. » L'un des ouromans, celui qui marmottait sans cesse dans sa barbe, hissa effectivement l'ermite en croupe, tandis qu'un autre gredin prenait les rênes de l'animal. L'air mauvais, Croc de Loup s'interposa entre les captifs dans l'ordre de marche, et la bande reprit son errance sylvestre. Tout en gardant un œil sur la maigre échine du vieillard, balancée au pas du cheval, le frère sergent rentrait la tête dans les épaules. Il craignait que l'homme au torque, s'avisant que son deuxième prisonnier n'avait plus grande utilité, ne donnât l'ordre de le tuer, ou s'en chargeât en personne. Toutefois, à mesure que le groupe s'enfonçait plus profondément dans les vallons ombreux et les futaies sauvages, le soldat consacré respirait mieux. Pour une raison qui lui échappait, on ne le mettait pas à mort. Dans le fond de son cœur, il remerciait le resplendissant de ne pas l'avoir abandonné. Moins tourmenté par l'angoisse, Vinmer retrouvait peu à peu ses esprits. Si pieux fut-il, il n'en demeurait pas moins sensé. La clémence était étrangère aux mœurs ouromandes. Pour qu'il fût épargné par les barbares, il leur fallait un sérieux motif. Contrairement à ce qu'il avait d'abord cru, ces rustres n'étaient pas des mercenaires au service du seigneur Douchin. Loin de prendre la route du château, ils s'ingéniaient même à la fuir. Dès lors, pourquoi s'embarrasser de deux anciens? Certes, au cours de leur raid, les brigands d'Ouromagne faisaient souvent des prisonniers pour les réduire en esclavage. Mais à cette fin, ils enlevaient des sujets jeunes et robustes. Quel intérêt de s'encombrer avec un individu vieillissant et un prêtre d'âge canonique. Plus troublant encore, si ces forbans ne dépendaient pas de Domnal Douchin ou de Brass Grevel, d'où tenait-il le nom d'Humel? Qui les avait renseignés sur les ruines de ce Nantes? Infatigables, les rôdeurs poursuivirent leur marche jusqu'à la Brune, grimpant des collines et dévalant dans des combes couvertes de forêts. Dans ces bois sauvages, Vinmer perdit tout sens de l'orientation. Même s'il avait pu saisir une opportunité de fuir, il n'aurait su où orienter ses pas pour chercher du secours. L'épuisement le gagnait à son tour. Ses blessures à la tête et au cou cuisaient, tandis que ses pieds saignaient dans ses chaussures déchirées. Il ressentit un terrible soulagement quand les barbares finirent par improviser un campement en pleine futaie, au bord d'une source. Avec la nuit, toutefois, la température fraîchissait. Or, le frère sergent, en nage, n'était plus que légèrement vêtu. Affamé, fourbu, il ne tarda pas à grelotter. S'il put boire tout son soûl au ruisseau, il dut à nouveau se contenter de quelques croûtes en guise de repas. Les chevaux furent attachés à bonne distance, tandis que les captifs restaient toujours sous la surveillance de deux hommes. Demain, si l'occasion se présente, rapprochez-vous de moi quand vous serez en selle, et tâchons de fuir tous les deux, chuchota Vinmer à l'ermite. Ou à tout le moins, éperonnez et sauvez-vous. Vous enverrez des gens à la rescousse sitôt que vous serez hors de danger. Mais le vieillard, visiblement trop abattu, ne lui donna pas de réponse. Secoué de frissons, Vinmer tâcha de se réchauffer un peu en se collant à son compagnon de misère. Il essaya de rassembler ses forces avec l'espoir de tromper la vigilance de ses gardiens aux petites heures de la nuit. Afin de lutter contre l'épuisement, la douleur et le froid, il récita à mi-voix les psaumes éliaques. Son murmure trouvait un écho bizarre dans le marmonnement sans fin du dénommé Donshad, qui paraissait un peu fou. Mais le frère sergent était aussi tourmenté par l'énigme de ce rapt. Que représentait le frère Humel aux yeux des forbans? Le vieux soldat avait le sentiment que s'il devinait la cause de cet enlèvement, il aurait peut-être de meilleures cartes en main pour parer à l'adversité. Mais à son grand désarroi, il devait reconnaître qu'il ignorait lui-même à peu près tout de l'anachorète. Cela faisait pourtant plusieurs années qu'il rendait régulièrement visite à l'ermite pour le ravitailler et veiller discrètement sur lui. Il n'était guère payé de sympathie en retour. Le vieillard, souvent perdu en prière ou en méditation, à moins qu'il ne somnolât purement et simplement, ne se montrait pas prodigue de confidences ni de remerciements. Quoique Vinmer fût son seul lien avec l'extérieur, l'ascète ne s'intéressait pas davantage aux nouvelles du monde. Souvent, les deux hommes échangeaient à peine 10 mots lors de leurs entrevues. Pourtant, l'anachorète n'avait pas toujours vécu dans sa retraite de ce Nantes. Il n'était arrivé que 3 ans plus tôt dans la région, investi de la mission de restaurer le culte dans le sanctuaire de la vieille déesse. À cette fin, quoiqu'il n'appartint point au clergé du resplendissant, il avait fait étape au doyenné de Gobe-Orchin parce que c'était le dernier moutier avant les ruines du prieuré. D'entrée, ce pérégrin avait été difficile à cerner. C'était déjà un homme très âgé, manifestement éprouvé par le voyage, et il était pourtant arrivé seul. Bien qu'il fût vêtu d'une robe de miste taillée dans une toile grossière et chaussé de sandales rapetassées avec des bouts de corde, il avait pour monture une mule bien nourrie, harnachée avec une selle et une bride luxueuse. Le frère Hummel n'avait demandé l'hospitalité que pour une nuit et exhortait qu'on le conduisît sans délai à ce Nantes. Toutefois, le doyen Magnovald l'avait invité à se reposer davantage, et l'hospitalité de sa cure était si confortable que le nouveau venu y avait passé 5 jours. En revanche, bien que les bons pères de Goborchin lui eussent remontré qu'il était peut-être trop vieux pour s'ensevelir dans un prieuré à l'abandon, le frère Hummel était demeuré inébranlable dans son souhait de se retirer à ce Nantes. À cette fin, il avait produit des lettres de mission que, rétrospectivement, Vinmer regrettait de n'avoir pas lues. Le doyen, qui les avait parcourues, lui avait juste rapporté qu'elles émanaient de la mystagogue de Mondoire et de l'écolâtre de Carwell. C'était le soldat consacré qui, en définitive, avait conduit le frère Hummel à son ermitage. À peine arrivé dans les ruines, le vieillard avait exigé qu'on le laissât tranquille, tout en chargeant son guide de reprendre la mule et de la faire renvoyer à sa propriétaire. Il ne s'agissait point d'une mystagogue du culte, mais ce qui avait un peu étonné Vinmer, d'une bienfaitrice de la haute noblesse, la baronne de Brégor. Cependant, à l'époque, il n'avait pas cherché à en apprendre davantage. Il n'était pas rare que les grandes dames fissent l'aumône par superbe ou par charité. Au bout de quelques semaines, la mule avait été confiée aux bons soins de pèlerins qui partaient consulter les augures de Carwell, à charge du chapitre du temple de renvoyer ensuite l'animal à la baronne. Transi de froid, mais l'esprit distrait par des souvenirs qui lui permettaient de tenir à distance ses misères, et surtout la volonté affermie par la prière, le frère sergent endura une nuit interminable. Il se consolait de ne pouvoir fermer l'œil en se disant qu'il trouverait bien l'occasion de s'échapper avec son compagnon dès que les barbares relâcheraient leur surveillance. Malheureusement, l'épuisement finit par le rattraper. Il faisait déjà jour quand un coup de pied dans les côtes le réveilla. Avoir raté l'opportunité de s'enfuir lui infligea un choc plus douloureux que le mauvais traitement. Ce matin-là, le frère Hummel lui parut un peu remis des frayeurs et des efforts de la veille. La discipline austère de l'ermite l'avait sans doute mieux préparé à dormir à la belle étoile que Vinmer, amolli par 5 ans d'existence au doyenné. Le vieillard tenait un peu mieux en selle, tandis que le frère sergent, douloureux, affamé et ankylosé, peinait à se réchauffer, y compris lorsqu'il reprit la marche. Il se faisait violence pour suivre le rythme des ourements, mais craignait de ne pas avoir le nerf de le faire jusqu'au soir. La possibilité de leur échapper lui paraissait de plus en plus chimérique, ce qui contribuait à saper ses forces. Par chance pour lui, les barbares ne coururent pas jusqu'au soir. En fin de matinée, la petite bande déboucha au sommet de longs coteaux boisés. Devant les hommes et les chevaux, le sous-bois s'affaissait en pente douce, ombragé par une haute futaie. Toutefois, des trouées dans les feuillages ouvraient des perspectives sur le paysage. Au pied des ravisseurs et de leurs captifs, s'étendait une vaste plaine, où de petits bois alternaient avec des prés, des vergers et des champs en lanière. De loin en loin, des hameaux, des fermes fortes et quelques tours modestes se nichaient dans cette campagne. D'après la position du soleil, Vinmer devina qu'il était arrivé sur le versant méridional des hautes terres d'Agurande. Les manses cultivées qu'il apercevait en contrebas appartenaient donc au comté de Kimark. Il ne parvint pas à décider s'il pouvait s'en réjouir. ces ravisseurs étaient selon toute évidence des pillards des clans qui cherchaient à rejoindre la Londe d'Alle, marche frontière de Louromagne sur la rive gauche de la Claye. Mais pour y parvenir, il faudrait traverser le comté dont les seigneurs vouaient une haine farouche aux Ouromans. L'entreprise n'était pas sans risque pour les Forbans. Les scélérats ne le savaient que trop. Après tout, pour gagner les hautes terres, il leur avait déjà fallu traverser les terres de Kimark. Ils s'arrêtèrent à l'abri de la forêt et attendirent la nuit. Cela offrit un répit bienvenu à leurs prisonniers. Si le frère sergent en profita pour souffler un peu, il eut du mal à récupérer. À la fatigue vinrent bientôt s'ajouter tous les symptômes d'un refroidissement. Ses éternuements exaspéraient les maraudeurs qui le trouvaient trop bruyant. Au terme d'une nouvelle prise de bec entre l'homme au torque et Ulfsen Croc de Loup, celui-ci condescendit à lui rendre son manteau. Le gredin s'éclipsa toutefois quelques instants en emportant le vêtement avant de s'en débarrasser avec un méchant sourire. Vinmer s'empara vivement de l'habit. Le manteau de l'ordre représentait à ses yeux bien plus qu'un peu de confort. Il symbolisait avant tout ses vœux et son allégeance. Aussi fut-il révolté de mettre la main sur une étoffe chaude et mouillée qui empestait l'urine. Les barbares ricanèrent de son air furieux.